Antoine, James, salut.
Salut.
Bienvenue.
Salut, messieurs.
Ok, bah, on l'a fait. Hands-on, on se retrouve combien de temps après l'annonce sur LinkedIn? Allez, peut-être 3 semaines, 1 mois et demi, on s'était dit ça, on l'a fait. Ça fait plaisir de vous retrouver là. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de table. En préambule, j'aimerais quand même remercier Yield Studio qui nous a permis d'avoir ce studio-là et tout le matériel et tous ces moyens qui sont mis autour. Donc, un petit big up à Yield Studio et aux entreprises qui poussent ce type d'initiative-là. Je pense que ça fait du bien à notre communauté. Et faisons en sorte que ça se poursuive comme ça pour le futur. Antoine, je te laisse te présenter, tu es l'invité du jour. Donc je te laisse commencer.
Yes, bah, merci déjà pour l'invite. C'est cool, je suis très heureux de lancer un peu cette première série, première saison Hands-on. Je m'appelle Antoine Coulon, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lead Software Engineer. Donc ça va faire un petit moment, déjà quelques années, que je suis à fond dans le développement. Et puis aussi sur mon temps perso, je vais faire de l'open source. Je vais contribuer à des projets, soit des projets dont je suis le créateur, ou alors des projets autour desquels je vais graviter en termes de contribution, d'écosystème, etc. Et donc voilà, c'est un peu mon kiff, c'est un peu ma passion. Je lie l'utile à l'agréable en faisant du software engineering, un petit peu mon hobby. Et donc voilà, ça va surtout graviter au niveau de TypeScript et de tous les sujets de craft en général. Donc voilà, très content d'être ici.
Bah, ravi de t'avoir, vraiment ravi de t'avoir. Et merci d'être libéré, parce que je sais que c'est pas forcément évident. On est en pleine semaine, donc merci encore. James ?
Eh bien, donc James Emery, cofondateur et CTO de Yield Studio. Je suis passionné par le développement depuis une petite dizaine d'années et très heureux d'en avoir fait mon métier. Tout ce qui est problématique de qualité, etc., c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà, un peu, on se rejoint un peu sur les sujets craft et autres.
D'ailleurs, j'ai une question, James. Pourquoi pousser une initiative comme celle-ci ? Pourquoi pourquoi être derrière ce type d'initiative-là ? Qu'est-ce qui t'a dit « Ok, j'y vais, hands-on, ça me parle. L'idée me parle. »
Je sais pas, l'idée de partager, de se retrouver pour quelque chose de simple, pas forcément marketing, mais plutôt entre tech, pour discuter de sujets un peu orientés justement autour de la qualité, je trouve ça assez intéressant. Et puis on peut avoir des invités exceptionnels, donc
c'est vrai,
donc c'est assez cool.
D'accord, ok. Et Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton profil en fait en tant que développeur aujourd'hui? Tu te définirais comment? Tu nous disais que tu étais lead développeur.
Ouais.
Ok, mais tu te définirais comme un... Je sais que tu es très actif sur la scène open source.
Yes.
Tu contribues à différents projets. Tu te définirais comment comme une personne... quel type de lead développeur tu es au jour le jour? Moi, je suis juste curieux de savoir ça, parce que c'est vrai que je te vois à travers les réseaux sociaux, je te vois beaucoup dans les meet-up, et on a toujours cette question de se dire quelle expérience serait de bosser avec toi en fait au jour le jour. Qu'est-ce que c'est de bosser avec Antoine au jour le jour, tout simplement?
Bah écoute, je pense que, en toute humilité, c'est fun, on s'amuse. Je pense que l'avantage, c'est de faire de notre métier une passion, donc avant tout, on s'amuse, on s'éclate. Et après, c'est le taf qui prend le dessus sur l'envie toujours de résoudre des problèmes. Moi, je suis très curieux de nature, et donc à chaque fois, c'est un challenge au jour le jour, parce qu'on a la chance de faire un métier quand même qui nous permet de faire face à des problèmes différents de jour en jour. Okay. Donc ça me nourrit un petit peu, c'est mon énergie de dire aujourd'hui, je vais découvrir de nouveaux problèmes, potentiellement de nouvelles solutions. Et donc moi, je vais être surtout sur une approche pragmatique, faire face d'abord aux problèmes auxquels on fait face, et apporter des solutions, et forcément apporter de la valeur en fait aux clients ou l'entreprise pour laquelle on travaille. Parce que c'est la finalité quand même malgré tout, c'est de se faire plaisir, mais surtout d'apporter une qualité, une productivité, une sérénité en fait à la personne chez qui on délivre le code, hein, que ce soit pour l'utilisateur final ou pas. Mais du coup, c'est avant tout, en effet, une réflexion autour de comment on peut bien faire tout en s'amusant, en mettant en place des bonnes pratiques qui nous permettent d'aller vite, de faire bien, et surtout de toujours apprendre plus. Alors, c'est surtout un apprentissage. Si on collabore, c'est surtout avant toute chose, c'est un apprentissage permanent, en fait. Au jour le jour, toujours de nouvelles choses, etc., etc. Donc, il n'y a pas un jour qui se ressemble, et il n'y a pas un jour où on devient moins bon que la veille.
Ok. Et d'ailleurs, je suis curieux, j'ai une question qui me taraude, c'est aujourd'hui, tu mets ton énergie, comme beaucoup, dans des projets open source, qui sont des projets pas forcément rémunérés, mais qui sont pas moins qualitatifs et pas moins importants. Pourquoi tu ne mettrais pas aujourd'hui ton énergie dans des projets qui seraient peut-être bankable, des SaaS ou des projets qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui t'anime en fait dans l'open source aujourd'hui?
Alors, je pense déjà que les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qu'on peut contribuer à des projets open source qui ont derrière une finalité peut-être lucrative ou qui peuvent découler sur des business. On le voit bien aujourd'hui avec des organisations open source qui de plus en plus ont un business model derrière. Donc je pense que de toute façon, les deux ne sont pas incompatibles, ça reste du software. Mais je pense, en termes d'investissement, c'est vrai que dans un premier temps, c'est quand même intéressant de se dire on va faire un petit peu d'open source, on va aller se trouver de nouveaux challenges qu'on n'a pas forcément l'occasion d'explorer en fait en entreprise, parce qu'on va, on va être très limité en fait sur des cadres définis, des technos définis, avec des contraintes. Et en fait, l'open source, c'est un peu notre champ de bataille personnel, en fait, où on va pouvoir s'amuser, c'est une aire de jeu. Et moi, je l'ai pris comme en fait un moyen d'explorer des choses que je n'avais pas forcément l'occasion de faire en entreprise. Et ça me permet de monter en compétences potentiellement sur des sujets que je sais pertinemment, je n'aurais pas l'occasion de traiter chez un client ou dans une entreprise quelconque. Et donc en fait, c'était avant tout cette faculté à pouvoir s'évader un petit peu et à monter en compétences tout en mettant en fait en application les choses. Parce que c'est vrai qu'il y a la partie quand même très théorique hein, sur notre profession de software engineering. Mais après, derrière, l'idée, c'est de se dire comment on met en pratique. Et l'avantage de l'open source, moi, ce que j'aime bien, c'est le partage aussi. C'est-à-dire de résoudre des problèmes que potentiellement d'autres personnes ont et de mettre à profit, en fait, les solutions qu'on a mises en œuvre pour faire bénéficier d'autres personnes, des entreprises, et puis avoir ce feedback. C'est toujours très satisfaisant de savoir qu'un outil sur lequel on travaille est utilisé.
Effectivement.
Donc, c'est une satisfaction aussi. C'est la possibilité. Certes, il y a des limitations financières. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à bien répartir son temps et pouvoir s'organiser pour que ce soit pas non plus une pression supplémentaire. Mais en général, je dirais que c'est quand même win-win parce qu'on a la possibilité d'apprendre plein de choses et ensuite de le mettre à profit, comme on l'a dit, hein, pour soit des projets un peu plus lucratifs ou alors même en entreprise. Je trouve que c'est un bon moyen de se faire les armes, en règle générale.
Donc t'as des limites financières, mais très peu de limites au niveau de l'imagination et de ce que tu pourrais faire finalement. De ce côté-là, c'est là où tu t'y retrouves, si j'ai bien compris.
Exactement. Et puis après, je pense que les développeurs aujourd'hui, il faut qu'ils voient un petit peu au-delà du scope financier, c'est-à-dire en termes de salaire. Hein. Je pense que l'investissement sur soi, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable. Mais au final, miser sur soi, c'est à long terme rapporter en quelque sorte un apport financier, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. C'est d'abord investir sur soi avant de penser à avoir tout de suite une contrepartie financière. Et donc moi aussi, j'ai toujours cette vision qui est de dire, en fait, la première chose que je fais, c'est et me faire plaisir, et surtout apprendre. Mais apprendre pour notre métier, c'est aussi devenir plus fort. Et devenir plus fort, ça se matérialise souvent par gagner plus d'argent, si on arrive à bien se débrouiller. Et donc voilà, après, l'idée, c'est aussi de simplement investir sur soi, se faire plaisir. Et après, en effet, si on a la possibilité de générer un apport financier, pourquoi pas. Mais avant tout, il faut toujours penser à se faire plaisir, vu que ça reste quand même sur du temps libre pour la plupart d'entre nous, quoi.
Ouais, c'est intéressant.
Surtout que tu apprends à gérer des problématiques complètement différentes, puisque tu fais face à des usages que tu ne maîtrises pas. Du coup, tu dois apprendre à t'adapter à ces contraintes, à rédiger une documentation aussi pour des personnes forcément que tu ne toucherais pas forcément habituellement. Et tu as une culture du sponsoring qui se développe pas mal ces dernières années dans le monde de l'open source quand même.
Yes, c'est vrai que c'est un bon point. Il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à réaliser un petit peu l'impact que l'open source a sur le développement même de produits ou alors sur la possibilité en fait de détecter des talents. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui rendent des projets open source et qui, de par le simple fait d'avoir des contributions externes, peuvent se dire ben, un jour, peut-être que cette personne-là, on a envie de la recruter aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un shift là qui a été amorcé il y a quelques années sur le fait de rendre open source beaucoup de logiciels qui sont utilisés de manière très conséquente. Et en fait, ça ouvre des portes en fait, qu'on n'avait pas du tout avant. Et c'est vrai que c'est un milieu qui nous permet de contribuer à des choses forcément un peu qui nous dépassent à l'international, avec des gens qui travaillent sur un fuseau horaire décalé, etc.
C'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, chez Yield, est-ce que vous faites de l'open source ou vous comptez faire de l'open source à un moment donné?
On fait un petit peu d'open source aujourd'hui, initialement sur des petites librairies, etc. Mais c'est un vrai projet pour nous, le côté innovation, si on peut dire, d'aller travailler justement sur des librairies plus ou moins importantes pour aller déjà faciliter la vie de nos équipes et à moyen terme contribuer à l'écosystème dans lequel on prend beaucoup naturellement. Donc redistribuer un peu les cartes aussi, ça fait partie du jeu.
D'accord. Et c'est... Et tu penses que c'est, est-ce que tu penses que c'est un enjeu pour le recrutement pour le futur? C'est-à-dire, comme disait Antoine, être capable de potentiellement recruter des talents via ce biais?
Je pense que c'est un enjeu parce que les profils qu'on vise, effectivement, c'est des profils très seniors avec une expertise particulière, donc c'est des profils convoités. Et on le voit dans les entretiens, quand tu mets en avant le fait que dans l'année, il y a des moments qui sont dédiés à l'open source, naturellement, ça vient convaincre les profils qui nous intéressent. Et au-delà de ça, c'est inversement aussi, les profils qui font de l'open source ont quand même une longueur d'avance chez nous dans le process.
D'accord.
C'est-à-dire que forcément, ça va nous plaire, vu qu'ils sont déjà dans cette dynamique de produire et ils ont déjà un peu ce mindset.
Ok. Et Antoine, toi, sur. C'est vrai que tu enchaînes les meet-up, tu enchaînes pas mal d'événements dernièrement.
Yes.
Sur un sujet précis d'ailleurs, mais on en reviendra juste après. Mais toi, comment tu vois ton futur? C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vrai que tu fais pas mal d'open source, tu bosses à temps plein, il me semble.
Yes.
Comment tu te vois? C'est, l'international demain, c'est une possibilité pour toi? Ou dans quel objectif, en fait, à terme, tu souhaites. Enfin, quel objectif à terme tu souhaites atteindre, en fait?
C'est une bonne question que je ne me suis pas forcément posée. C'est vrai que l'international, je ne me ferme pas forcément de portes. Après, c'est vrai que l'international ne veut pas forcément dire ouvrir, entre guillemets, une carrière différente. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de bosser avec des personnes à l'international sans pour autant avoir un changement en termes de position physique. Donc, c'est quelque chose que je pourrais envisager. Maintenant, c'est vrai que en termes de contribution, en termes de valeur qu'on peut apporter sur la scène international, ce serait forcément peut-être via l'open source, c'est-à-dire il y a aujourd'hui des entreprises qui permettent de développer des logiciels qui sont mis à disposition de manière gratuite ou avec des freemium, des premium, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça pourrait être un prisme intéressant qui est de dire aujourd'hui je vais peut-être m'attaquer à un projet qui a énormément d'ampleur et qui est utilisé à travers le monde et de pouvoir contribuer, de voir comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice. Ça peut être une possibilité. Mais après, il y a quelque chose aussi que j'aime bien et qui, forcément, dans l'open source, c'est un petit peu plus compliqué à trouver, c'est la résolution de problèmes, c'est-à-dire des gens qui ont besoin d'informatique, des gens qui ont des problématiques qu'on peut résoudre avec des solutions informatiques. Mais c'est vrai que c'est sympa toujours d'avoir un besoin qui est exprimé sous forme de client, en fait, qui a un besoin bien précis, que ce soit dans le domaine médical ou dans le domaine de, je sais pas, de n'importe quel type de domaine d'entreprise, et de se dire derrière, bon, on va essayer de crafter une solution qui résout leurs problèmes, de le faire bien, de le faire rapidement et de prendre du plaisir au passage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est dur à retrouver en termes d'open source parce que souvent, on a un peu plus cette barrière avec le client, en fait. Avec l'open source, on va être très software et au final, les feedbacks clients qu'on va recevoir, c'est un peu plus compliqué. On a tout de suite une dimension un petit peu différente. On est tout de suite plus dans la technique. Après, c'est vrai qu'en entreprise, ce qui est cool... Quand on bosse, on développe des produits qui sont fonctionnels. On a aussi ce prisme qui est la compréhension du besoin, etc. Et résoudre des vrais problèmes, etc. Donc ça, c'est à voir. Je pense que c'est un chemin. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, faire l'acquisition de connaissances, de toute façon, de software engineering, pour l'utiliser soit à des fins d'open source ou l'utiliser à des fins fonctionnelles, je pense que ça, une fois qu'on a le bagage, après on peut se faire plaisir là où on veut, donc je me ferme pas forcément de porte. Tant que j'arrive à prendre du plaisir et je continue d'apprendre et de monter en compétences, c'est le plus important.
C'est le plus important, ouais. Pour toi. D'accord, yes. Ok, c'est intéressant. Et c'est vrai que le concept hands-on, pour revenir sur le sujet, pour revenir sur le concept un petit peu, c'est vrai que tu as été l'une des premières personnes que j'ai sollicité. En fait, on en a parlé vraiment sur un post LinkedIn, il me semble. On a dit ok go, on fait un podcast, on discute un petit peu et puis on met les mains dedans. C'est quoi qui t'a donné envie de pouvoir, enfin clairement d'être tenté par l'expérience finalement, parce que ça peut être une bon, je t'assure, hein, c'est chill hein, ici là, mais ça peut être une expérience un peu stressante pour certaines personnes et finalement tu t'es dit ok go, tu sais quoi, Mathieu viens on parle et puis on met les mains dedans en fait. Et je ressens un peu ce côté un peu performeur, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça ou plutôt expérimentation. Ou c'est quoi qui t'a stimulé en fait derrière l'idée en fait, clairement?
Bah, comme je l'ai dit, en fait, je me ferme pas de porte sur les opportunités. C'est-à-dire que là, c'est une occasion aussi de comme tu l'as dit. Enfin, j'ai trouvé le concept tout de suite très innovant de mettre en lumière un petit peu des profils qui, comme on l'a dit, hein, l'open source c'est compliqué parce qu'il y a derrière un petit peu le revers de la médaille qui est pas forcément de reconnaissance ou alors pas de rémunération, ce genre de choses. Donc déjà, j'ai trouvé le concept en fait super, de dire on prend des personnes qui ont l'occasion de s'exprimer sur certains sujets qu'on juge pertinents, et de les mettre un petit peu en lumière. Déjà, j'ai trouvé ça cool. Et après, personnellement, moi, j'étais un petit peu curieux de voir ce que ça donnait aussi devant les caméras. Comme tu l'as dit, hein, j'ai enchaîné récemment les meet-up. Je m'étais dit, bon, bah, dans la foulée, autant ajouter un petit studio d'enregistrement, faire un truc sympa. Et puis en plus, c'était l'occasion de se rencontrer, donc avec plaisir.
Clairement. C'est vrai que l'idée, elle est sympa, parce que demain, il n'y a rien qui nous empêche de faire ça avec d'autres profils. Et l'idée première, évidemment, c'est de mettre des profils en fait en lumière, et surtout de rentrer dans le vif du sujet, de poser des questions, d'apprendre. Et c'est un peu l'objectif en fait de la série. En tout cas. Donc, est-ce que tu peux nous parler, nous introduire en tout cas au sujet que tu vas nous présenter aujourd'hui, dans lequel on va rentrer, on va tous diguer. Est-ce que tu peux nous introduire, mais vraiment très light, et derrière, de toute façon, on mettra les mains dedans et on aura du concret.
Yes.
Avant d'entrer ouais. là-dedans, j'ai juste une petite question.
Okay.
On a parlé de ton futur un peu, de ce que tu aimerais pour l'avenir, mais si on revient un peu en arrière, comment tu es arrivé dans le développement? Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Je pense que c'est intéressant.
Yes, mais c'était principalement la curiosité. Je savais plus ou moins que je voulais faire quelque chose en rapport avec l'informatique. Je ne savais pas encore quoi exactement. Et puis quand j'ai commencé le développement il y a quelques années de ça, c'est vrai que c'était tout de suite un peu compliqué, les études, tout de suite avec du low level, du C, du C++. C'est dur un peu de se faire un modèle mental autour de ce qu'est le software engineering quand on commence. Et puis je me suis accroché, et puis ça m'a vraiment passionné, parce que de base, je suis quelqu'un de plutôt scientifique. Donc, c'est-à-dire que j'aime, comme je l'ai dit, la résolution de problèmes. En fait, je me suis très vite aperçu que c'était un domaine très créatif. En fait, on était libre de s'exprimer. On avait mille manières d'exprimer la même chose, d'arriver à la même solution. Et en fait, le simple fait d'être challengé au quotidien pour dire comment on peut mieux faire une chose qui fonctionne, le faire différemment avec des contraintes différentes. Et donc, du coup, au fur et à mesure que j'ai découvert l'informatique au travers de mes études, je me suis vraiment dit que cette possibilité d'être créatif, le côté artisanat en fait qu'on retrouve hein, dans les appellations craft, c'est vraiment de l'artisanat, c'est-à-dire qu'on est sur de la conception certes qui va être plus intellectuelle, parce qu'on n'est pas trop dans le manuel à part taper un petit peu sur notre clavier, mais j'aimais bien ce côté où il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de frontière si ce n'est sa propre personne. Et donc voilà, je m'y suis tout de suite attaché. Donc j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait un DUT informatique, où pour le coup c'était très dur parce qu'il y avait quand même beaucoup de boulot. On avait des grosses journées avec énormément de modules sur plein de choses en informatique, donc il fallait s'accrocher, mais le résultat c'est qu'au final tu deviens très vite polyvalent, et avec surtout les bons bagages qui sont à mon titre de ce que je pense le plus important, c'est les fondamentaux qu'on va retrouver dans tous les écosystèmes, tous les domaines. Et c'était juste cette culture de comprendre les bases, comprendre comment ça fonctionne, comment l'informatique fonctionne, et ensuite c'est itérer un peu plus haut sur les différentes couches de tout cet écosystème en fait. Et donc voilà, il y avait juste pas de limite. À partir du moment où on a les bases, on peut les réexploiter, on peut les appliquer à des domaines bien particuliers. Donc
d'ailleurs, j'ai une question, je suis curieux de savoir quel a été ton cheminement pour vouloir faire des softs de qualité. Parce que tu l'as souvent dit, en fait. Et c'est vrai que tout le monde n'a pas ce cheminement, ou des personnes ne l'auront jamais, certainement. D'autres personnes l'ont naturellement, mais on a tous notre histoire, en fait, je pense, pour arriver à ce point-là. Quel a été ton cheminement pour te dire, voilà, aujourd'hui, moi, je vais faire des softs de qualité et je vais le faire de la bonne manière?
Yes, mais c'est une question super intéressante, parce que je pense que ce cheminement-là, il va être super personnel en fonction de l'expérience. Moi, j'ai eu la chance de le découvrir assez tôt dans ma carrière. C'est-à-dire que je n'avais pas déjà un esprit, on va dire, formaté avec des méthodes qui n'étaient pas forcément les bonnes. Donc j'ai eu la chance tout de suite de côtoyer des personnes qui m'ont montré la voie sur comment faire, comment bien faire notre métier, comment bien l'exercer. Et en fait, avoir, comme je l'ai dit encore une fois, cette envie d'aller chercher la connaissance des bases, le pourquoi du comment sur tous les sujets. En fait, on se retrouve très vite sur tout le temps une remise en question avec une humilité qui est absolument nécessaire. Donc ça, je pense que c'est un prérequis hein, sur cette approche artisanale logicielle. C'est une humilité pour toujours se dire peut-être que je ne fais pas de la bonne manière. Et en fait, très tôt, j'ai pu travailler avec des gens qui avaient cet état d'esprit de toujours se remettre en question et toujours vouloir faire mieux. Et en fait, naturellement, on arrive hein, sur, sur toute l'essence de notre profession, le craft, les bonnes pratiques, etc., etc. Et en fait, vu que je suis passionné, j'avais envie de faire bien mon métier, d'être professionnel le plus possible. Et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive indéniablement sur, sur tous ces sujets-là. Et puis, j'ai eu l'occasion de très tôt bénéficier de formations que j'ai financées de ma propre poche en étant alternant par le passé, etc. Okay. Donc, j'avais une motivation qui était peut-être hors norme, j'ai envie de dire, en toute humilité, parce que c'est vrai que j'étais déjà dans un cadre où j'avais pas forcément beaucoup de revenus. Mais je me suis dit que j'allais déjà investir sur moi parce que j'étais déjà convaincu que c'était la bonne manière de faire. Et donc voilà, j'ai eu la chance de croiser des personnes comme Mickaël Azerrad, par exemple, très tôt, qui ont des opinions certes bien tranchées, mais qui, quand on prend un peu de recul, sont très pertinentes. Et du coup, j'ai pu me prendre un petit peu un recul et me demander qu'est-ce que j'avais envie de faire et sur quelle piste j'avais envie de me lancer, en fait, de lancer ma carrière. Et donc tout de suite, je me suis dit, quitte à le faire, autant partir du bon pied, d'essayer de partir tout de suite sur les bonnes bases, quoi.
Donc la proportion, enfin, ce qui t'a amené clairement ou par quel biais, ça a été surtout de la formation, finalement l'auto-formation, et la partie transmission, est-ce que tu as travaillé avec des profils qui t'ont transmis ça ou tu as vraiment été proactif et tu t'es dit je vais me former, je vais aller de l'avant, je vais lire, je vais ouvrir des livres,
ouais.
Je vais faire de la recherche et puis je vais progresser finalement un peu par moi-même, ça a été principalement ça ou à travers potentiellement des projets open source, tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont fait grandir ou des projets en entreprise aussi?
Ouais, carrément, c'est un bon mix de tout, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a déjà cette envie, faut avoir la motivation, faut avoir l'envie de se plonger dedans. Et c'est vrai que très tôt, j'ai eu la chance de me dire, j'ai du temps, j'ai de la motivation. J'ai commencé par m'acheter des livres, commencé à les lire, etc., commencé à m'intéresser. C'est vrai que ça passe par beaucoup d'auto-formation. Forcément, mais au début c'est quand même très important d'être encadré, d'avoir des mentors qui savent montrer la voie, que ce soit par le biais de l'open source ou que ce soit par le biais de formation ou de blog post, de bouquins par exemple, hein, de personnes très expérimentées. Donc c'est savoir simplement en fait se mettre dans une position où on apprend, et c'est vrai que par exemple même en open source, hein, j'ai rencontré des personnes dans l'écosystème Node, par exemple Thomas Gentilhomme, qui avait pour le coup cette approche aussi experte sur plein de sujets. En fait, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre en fait un sujet, j'ai envie de côtoyer des personnes qui sont expertes, j'ai envie d'apprendre auprès des meilleurs. Et je pense que ça passe par là, en fait, c'est simplement de se mettre dans une position où on a envie d'apprendre, et surtout d'être à l'écoute. Donc c'était vraiment de l'auto-formation, de la recherche de mentors, de la recherche de ressources en permanence. Ouais.
Hyper intéressant. D'ailleurs, j'aimerais croiser cette question-là. J'ai une question pour toi, James. Aujourd'hui, chez Yield, chez Yield Studio, comment on fait pour faire grandir les profils ? C'est-à-dire, quand je parle grandir, c'est comment les amener ? Parce que si l'idée derrière, c'est l'excellence technique, qui est très ambitieux finalement. Il est très ambitieux. Comment on fait grandir les profils dans l'entreprise ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez une recette secrète ?
C'est intéressant, tu pourras peut-être y répondre d'ailleurs. De manière générale, les profils qui nous rejoignent sont quand même déjà plutôt très expérimentés. La question, je pense, c'est comment après on leur permet de continuer à évoluer. Et justement, pour moi, ça passe par ces initiatives open source, par des moments d'échange entre pairs. Et arriver à un certain niveau, je pense que c'est surtout ça en fait. Qui va permettre d'évoluer, c'est justement d'aller sur des projets qui nous dépassent, de travailler sur des sujets qui sont parfois purement techniques, qui vont au-delà d'un produit, et au contraire parfois de travailler sur des sujets qui sont purement conceptuels ou qui sont liés à un produit pour aller justement développer les compétences annexes qui, in fine, une fois que tu as la compétence technique, c'est ça qui va jouer aussi sur ta capacité à être un excellent développeur.
D'accord, ok.
Mais je ne sais pas si tu as d'autres éléments de réponse.
Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout les modes de transmission d'entreprise chez Yield, c'est plutôt tout ce qui touche en fait, au pair programming, pousser les tests, pousser la qualité, donner du temps et choisir les clients, surtout. Mmh. Choisir les clients pour qui on va travailler, qui nous permettent d'implémenter en fait, toutes ces bonnes pratiques-là, qui permettent en fait, au profil de continuer d'évoluer en toute humilité, comme disait tout à l'heure Antoine. et de remettre en question chaque jour et travailler avec des profils qui sont capables de se remettre en question également, en fait. Et de nous remettre en question également, des fois. Ouais. Ça, c'est très important.
Tu as parlé un petit peu de livres tout à l'heure. Est-ce que tu en as un qui t'a particulièrement marqué ? Je sais que c'est difficile d'en identifier un, mais...
Ouais, en effet. Je pense celui qui m'a le plus marqué récemment, ça va être Modern C++ avec le Test Driven Development. Pourquoi ? Pour une simple et bonne raison, parce que j'avais lu par le passé Clean Code, j'avais lu plein de livres, Pragmatic Programmer, ce genre de choses. Certes, qui sont super intéressants, mais je trouve qu'en fait, l'approche avec l'artisanat logiciel en fait, était juste logique avec l'approche, par exemple, Test Driven Development, parce que je trouve que ça fitait bien avec le modèle mental qu'on a besoin d'avoir, c'est-à-dire qu'il y ait tout le temps une remise en question, tout le temps une... Ce que j'aime bien dire, c'est la feedback loop qui est super importante, en fait, au jour le jour, et de se dire, en fait, quelle est la meilleure manière d'approcher, en fait, mon métier. Et c'est d'avoir ce besoin permanent d'avoir un feedback sur ce qu'on fait, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Et c'est surtout, en fait, de réaliser, parce que, entre autres, ce que ça m'a permis de réaliser, c'est que le TDD, ça va être une finalité, mais derrière, il y a plein de prérequis qui sont d'abord la maîtrise, en fait, du software engineering, la maîtrise de design, de refactoring. Et en fait, c'était pas forcément le livre qui m'a le plus marqué, mais c'est le livre qui m'a le plus ouvert l'esprit, dans le sens où qui fait réaliser qu'en fait... J'ai énormément de choses encore à apprendre pour arriver à le maîtriser. On va le voir avec la technologie aussi qu'on abordera après, mais c'est non seulement une bonne finalité en soi, mais c'est surtout le moyen par lequel en fait on y arrive qui nous ouvre des perspectives super intéressantes. Parce que c'est au passage qu'on réalise que on a besoin de savoir ça, on a besoin de savoir ci, tous ces sujets de les maîtriser au passage. Et en fait, ça donne une super bonne ligne directrice pour un apprentissage complet. Et donc j'adore vraiment ces livres qui permettent simplement de dire. Voilà, donner une bonne ligne directrice et de... Il n'y a plus qu'à apprendre, en fait. On est juste sur une voie grande ouverte où on sait ce qu'il faut faire, hein, potentiellement, pour produire du code de qualité, pour s'amuser. Et en fait, il n'y a plus qu'à collecter les ressources, il n'y a plus qu'à écouter ceux qui ont l'expérience sur le sujet et ensuite se mettre dans une position où on réussit. Et on se donne les moyens de collecter ces ressources et de les mettre en application.
D'accord, ok. Super intéressant et merci pour la réponse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de donner du sens un peu au titre de l'émission, Hands-on. C'est qu'on ouvre les ordinateurs et qu'on plonge et qu'on digue sur le concept que tu nous présentais. D'ailleurs, je te laisse nous introduire au concept.
Yes, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, techniquement, comment je peux le résumer, hein, c'est avant même de parler de l'outil, ce qu'on va voir ce soir, c'est avant tout une solution qui, selon moi, répond à beaucoup de problèmes auxquels on va faire face. En fait, dans le software engineering en règle générale. Et ce que je veux surtout que l'auditeur retienne, c'est que avant qu'on parle, nous, d'outils, de technologies, c'est avant tout qu'on recherche les problèmes en fait, qu'on va essayer de résoudre. Et donc, ça, on aura l'occasion d'en parler, mais c'est dans l'écosystème, TypeScript, Node.js, tous les runtime JavaScript, en fait, on a plein de problématiques qui s'appliquent aussi à d'autres écosystèmes. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une équipe qui s'occupe d'une librairie qui s'appelle Effect, qui nous apporte un ensemble, tout un écosystème de modules, de librairies TypeScript qui nous permettent justement de répondre à ces problèmes. Et donc, c'est ça qu'on va voir.
D'accord. Bah, je vous propose d'ouvrir les ordinateurs.
Allez.
Allez, let's go.
Let's go. Ok, bah, Antoine, je te laisse nous introduire un peu au sujet. On te suit ?
Yes, carrément. Du coup, comme je l'ai dit, hein, l'idée ce soir, c'est de parler un petit peu de TypeScript, parler d'écosystème TypeScript, mais avant toute chose, c'est quand même de réaliser que les problématiques qu'on va aborder ce soir, même si on utilise TypeScript et qu'on va mettre en œuvre du TypeScript, ça s'applique en fait à tous les écosystèmes, tous les langages. Et donc j'invite vraiment toutes les personnes, hein, que ce soit des gourous un petit peu TypeScript ou non, à s'intéresser un petit peu aux problématiques qu'on va évoquer. Et il faut savoir que Effect aujourd'hui est une librairie TypeScript, mais a un équivalent en Scala par exemple, qui s'appelle Zio. Et donc voilà, ça donne juste une perspective en fait à l'auditeur. Comme quoi, en fait, ce qu'on va voir, c'est pas uniquement des problématiques TypeScript, mais simplement des problématiques de software engineering.
Ok.
Voilà. Donc, en fait, comme on peut le voir, hein, la librairie s'appelle Effect. Donc, il y a pas longtemps, ça a été, c'était encore un écosystème un petit peu chardé en termes de modules de librairie qui était publié un peu indépendamment sur NPM. Et récemment, on a eu la chance que tout soit unifié sous une seule librairie. Et donc on va voir que en fait, l'ensemble des choses qu'on va aborder ce soir sont sous le même toit. Et donc c'est vrai pour nos amis open source, enfin d'open source ou même de personnes qui maintiennent un petit peu des repositories, on va vite se rendre compte qu'avoir une seule dépendance à gérer, à maintenir, c'est quand même intéressant. Et ça nous permet de nous faire gagner du temps pour résoudre des vrais problèmes. Comme on l'a dit, hein, c'est une librairie TypeScript. Donc la première chose à faire, hein, c'est l'installer via NPM. Donc comme on voit, hein, c'est la lib, elle s'appelle Effect. Rien de bien particulier. Et donc ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de commencer à coder, en fait, à voir un peu à quoi ça ressemble.
Okay.
Je vais commencer par créer un fichier TypeScript, en fait, tout simplement. Et donc ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, donc Effect, c'est un ensemble de modules qui sont tous sous le même toit. Et donc quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans l'autocomplete, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui sont exportées. En fait, Effect, ça va être une lib qui de base prend un peu ses racines au niveau du functional programming avec un paradigme qui va reprendre un petit peu l'essence du FP, mais il faut aussi comprendre que ça utilise beaucoup de choses de l'OOP. Et donc j'ai pas envie que on parle ce soir, on fasse un débat FP versus OOP, parce que justement la motivation Effect, c'est de dire en fait on s'en fiche un petit peu de tout ça, on n'a pas envie de dire qu'est-ce qu'une monade, ce genre de choses, qu'est-ce qu'un functor, qu'est-ce qu'un monoïde, ce genre de choses. On a envie de parler de vrais problèmes, on a envie d'aller tout de suite dans le concret, et l'objectif, c'est de dire en fait on expose des modules qui nous permettent de résoudre des problèmes d'entreprise, des problèmes de software engineering, sans pour autant savoir que derrière on utilise ce genre de pattern. Donc ce que je vous propose, hein, c'est simplement déjà de commencer par le data type le plus important, qui est Effect, sans grande surprise. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, hein, en termes de data type, on va avoir dans l'écosystème, on va avoir des promesses, on va avoir des observables, on va avoir ce genre de choses. Et en fait, Effect, c'est par nature un seul data type qui va représenter, on va le voir, beaucoup de choses. La particularité d'Effect, c'est comme on va le voir, en fait, hein, je vais juste faire un petit exemple. Par exemple, Effect Succeed, hein, qui est l'équivalent de, par exemple, de Promise Resolve, hein, si on le fait de la même manière, par exemple. Hop. Juste pour qu'on prenne le parallèle. Donc ici, on va mettre que c'est une promise, par exemple, et ici, on va dire que c'est un effect. Et donc la différence, on va la voir, hein, la première chose qu'on va remarquer, c'est qu'une promise, bah, en fait, c'est un seul type générique, donc c'est un seul paramètre générique qui est en fait ce qu'on appelle le canal de succès, qu'on va retrouver en fait en TypeScript, hein, comme étant la signature de retour d'une fonction. Et donc ça, c'est l'information qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on a l'habitude de traiter, parce que c'est quelque chose qui est normalement universel, hein, à part si on type tout en any ou ce genre de choses et qu'on ne bénéficie pas forcément de TypeScript. En général, on va quand même avoir ce canal d'information. La différence avec Effect, tout de suite, ce qu'on va voir, c'est que on a trois types génériques qui sont exposés. Donc comme on peut le voir, ça va être tout le temps inféré. Tous les exemples, pour peut-être les auditeurs, peut-être que je marquerai la signature à la main, mais il faut garder en tête que normalement tout est inféré et on peut travailler sans signature de type, tout en bénéficiant de tout le type système.
Okay.
Et donc la différence avec Effect, c'est qu'on va avoir, comme je l'ai dit, hein, trois types génériques. Donc on a ici le premier qui est never, on va le voir aussi, un deuxième qui est never et le troisième qui est number. Donc on comprend vite en fait que le troisième, bah, ça va être le canal de succès. Donc c'est-à-dire que c'est là où l'information du succès va être propagée. Et donc si on reprend un petit peu la définition, peut-être, hein, pour cliquer sur la définition d'un effect, on voit qu'il y a beaucoup de définitions, que les définitions sont très complexes en fait en termes de type. Mais nous en fait on s'en fiche un petit peu de tout ça. Ce qu'on a envie de comprendre, c'est quels sont ces trois types génériques en fait qui composent notre effect. Et en fait c'est très simple, on va voir au travers de différents exemples qu'il y a un premier canal d'information, donc le premier type générique qui est ici never pour l'instant, qui représente l'ensemble des dépendances qu'un effect, dont un effect va avoir besoin pour être exécuté. C'est-à-dire que oui.
Quand tu parles de dépendance, tu parles du contexte pour qu'il soit exécuté, ou tu parles...
C'est ça. C'est les dépendances, en fait, c'est souvent appelé contexte, le premier générique. C'est le contexte requis, donc qui contient l'ensemble des dépendances qui vont être requises pour qu'un effect puisse être exécuté. On va voir ensuite, par la suite, ce que ça veut dire être exécuté. Je vais peut-être refaire un petit pas en arrière. Et en fait, on va comprendre une promesse qui est fondamentale avec une chose fondamentale différente en fait entre la promesse et l'effect, c'est que l'effect par nature il va être lazy, c'est-à-dire que c'est juste une description d'un programme. A contrario d'une promesse qui elle représente déjà une opération qui est en cours, donc on dit que la nature d'une promesse est trigger, en fait la différence c'est qu'effect, son but c'est de décrire un programme, il décrit, c'est la description pure d'un programme, et normalement en fait on est censé se dire tant qu'on n'interprète pas l'effect, tant qu'on n'utilise pas le runtime d'effect pour exécuter, pour interpréter tous les effects, il n'y a rien qui se passe. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, on est sur une partie purement conceptuelle, on va essayer d'utiliser le type system pour dire, voilà, en fait, j'ai décrit un programme, je vais essayer d'utiliser le côté statique en fait, de mon compiler pour dire, est-ce que ce que je suis en train d'écrire, c'est correct avant même de l'exécuter. Et donc, en fait, là où c'est intéressant, c'est que Effect pousse un petit peu TypeScript à l'extrême. C'est-à-dire qu'il va essayer d'utiliser au maximum toutes les fonctionnalités pour s'assurer que le code qu'on écrit est correct. Et donc, si on revient un petit peu...
C'est intéressant quand tu dis qu'on va décrire en fait, un programme pour savoir s'il n'y a pas d'erreur, en fait, pour savoir s'il peut être exécutable tout simplement.
Ouais.
On ne parle même pas d'erreur, s'il peut être exécutable. Ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec une promesse, dans le sens où c'est exécuté immédiatement, c'est ça que tu veux expliquer ?
Yes, en effet. Mais la nature, en fait, lazy, elle apporte plein de choses. C'est-à-dire qu'on est capable de s'assurer, d'un point de vue purement statique, que dans une certaine mesure, le programme qu'on écrit est correct. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qu'on va voir, hein, comme les dépendances. On va être capable de s'assurer. Effect va nous permettre, avec TypeScript, de déterminer est-ce que l'ensemble des dépendances qui sont requises pour que l'effect puisse être exécuté. Il faut comprendre que Effect, en fait, à l'échelle d'un programme, c'est des milliers, voire des millions de petits effects qui sont combinés entre eux. Et l'avantage, c'est de se dire, en fait, à l'échelle d'un programme, est-ce que j'ai fourni toutes les dépendances ? Donc, en fait, est-ce que mon injection de dépendance, elle est type-safe ou non ? Et ça nous permet de, sans même exécuter, de rendre le code explicite, de rendre le code clair, concis, en fait, et transparent vis-à-vis des attentes d'un programme. C'est aujourd'hui hein, quelque chose que je regrette un petit peu avec TypeScript de manière un petit peu native, c'est qu'en fait on a quand même, on s'en rend compte quand on utilise Effect, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dont on ne bénéficie pas et qui est un petit peu cachée malgré tout et qu'on doit aller récupérer, notamment on va le voir après sur la gestion des erreurs aussi.
Okay.
Et donc ce que je vous invite par exemple à faire, c'est de voir là, une chose, c'est par exemple de dire aujourd'hui si par exemple on a une promesse qui est définie comme étant un new promise par exemple, hein. Ce qui est intéressant ici c'est de comprendre que en fait la promesse comme on l'a dit, hein, on va dire endzone par exemple, et on va dire ici pour éviter que notre programme il n'existe pas, on va voir la différence, on va dire ici undefined, et donc j'ai installé TSX hein, de manière globale pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un utilitaire qui permet de transpiler du code TypeScript directement et de l'interpréter. Donc ça nous évite de passer par l'étape de transpilation et ensuite d'exécution via Node. Et donc en fait, ce qui est intéressant ici de regarder, c'est que concrètement, on a quand même une différence ici qui est la construction d'un type promesse, comme on l'a dit, hein, et eager. C'est-à-dire que par nature, en fait, la construction d'une promesse va engendrer ce qu'on appelle des effets de bord. Et donc notamment l'exécution, on va le voir ici on le voit ici en fait directement depuis la console, c'est le console log qui est exécuté, alors qu'en fait on fait encore techniquement rien avec notre promesse. Et la différence en fait avec Effect, si on fait un petit peu le même parallèle et qu'on dit voilà, on va essayer de modéliser un console log aussi de la même manière. Donc sync, hein, c'est une fonction qui permet d'élever en fait dans le monde d'Effect un effet de bord. Donc typiquement ici notre effet de bord c'est le console log, et en fait ça prend tout simplement une fonction pour prendre le contrôle aussi sur l'exécution. Donc tous les effets de bord en fait qui doivent être exécutés doivent rentrer dans un contexte aussi lazy. Donc typiquement ici, si on prend endzone effect, en fait on va voir la différence, c'est que globalement il n'y a rien qui s'exécute en fait pour un effect, parce que si on regarde le contenu en fait ici qu'on a, qu'on regarde un peu ce qui est retourné en fait par effect sync, ce qu'on voit c'est que c'est simplement une structure de données. C'est une structure de données qui décrit en fait notre programme. Et on va le voir qu'en fait, en termes de combinaison, en termes de composition d'un programme, en fait, ça va être simplement la représentation d'un programme à l'aide d'une data structure qui va être certes très conséquente, qui va être très nestée, mais en fait, ça nous permet simplement d'avoir plein de garanties en fait, statiques qu'on n'aurait pas sans cette nature purement contrôlée. En fait. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, si j'ai maintenant envie d'exécuter, en fait, d'interpréter un effect, la première chose que je vais pouvoir faire, c'est de dire, en fait, il faut que, explicitement, je l'interprète. Et donc, pour ça, il y a ce qu'on appelle un runtime. Hein. Au même titre que Node est un runtime pour JavaScript, on a un runtime effect qui permet d'interpréter la structure de données et qui permet de lui donner un sens et d'exécuter tous les effets de bord.
Tu peux la refaire ? Quand tu parles de runtime effect,
ouais.
Tu parles d'un runtime au sens propre ou
C'est un runtime, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de l'exécution. Okay. Du programme effect, donc il y a un runtime qui est écrit avec TypeScript, hein,
okay.
Et qui est globalement une grosse loop while true en fait, okay. Qui simplement va prendre exécution, enfin effect par effect en fait, va considérer que c'est une step dans l'exécution en fait du programme, et en fait va un petit peu dépiler toute la structure de données d'une manière très logique en fait, telle qu'on l'a décrit dans notre programme, pour exécuter les opérations les okay. unes après les autres. Donc c'est vraiment un runtime au sens interprétation d'un code source, en l'occurrence ici, qui est représenté sous forme d'une structure de données, et pas forcément d'un AST comme on va pouvoir le retrouver avec Node. En fait, on peut considérer que ça, en quelque sorte, c'est l'AST, c'est l'Abstract Syntax Tree d'Effect.
D'Effect. Okay.
C'est la description du programme à la sauce Effect. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a envie d'exécuter, d'interpréter un effect, on va être obligé de passer par une fonction du runtime qui, en gros, interprète cet effect-là.
Ok, c'est clair.
Donc par exemple, on voit qu'on a ici la possibilité de dire de quelle manière en fait j'exécute l'effect. Donc est-ce que j'ai envie de générer en sortie une promesse ? Est-ce que j'ai envie de générer un callback ? Est-ce que j'ai envie de générer quelque chose de purement synchrone ? Donc en fait, ici, on va se dire, par exemple, on fait la chose la plus simple, le run sync qui permet d'interpréter l'effect de manière purement synchrone. La garantie derrière qu'il faut avoir, c'est que notre code en effet décrit uniquement quelque chose de synchrone, hein, ce qui est le cas ici, comme on le voit avec la fonction sync. Et donc si on donne ça, en fait ce qui se passe, c'est qu'ici, on voit que le runSync prend un effect en fait, qui est notre point d'entrée. Donc ici, il faut imaginer que ce qu'on va exécuter, c'est simplement le boundary, un petit peu l'extérieur de notre programme. Ici, il faut imaginer qu'on a tout notre programme qui est décrit, hein, de manière purement pure, en fait, avec une description à tous les niveaux, des contrôleurs, des services, tout ce qu'on veut, hein, tous les layers de nos applications. Et qu'en fait, c'est à la toute fin, on va dire, en fait, bah maintenant, on veut lancer notre programme. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on est censé faire, en fait, de manière perpétuelle. Hein. On ne fait pas des runsync à toutes les sauces. On a juste envie de se dire, d'abord, on compose notre programme, on le décrit, et ensuite, à la fin, on l'exécute.
Ok, mais on le décrit, mais avec une meilleure prédictibilité, ce que tu es en train d'expliquer.
Exactement.
C'est beaucoup plus clair, c'est moins erreur-prone. Du fait qu'on ait quand même des types beaucoup plus clairs, beaucoup plus explicites, et surtout des types qu'on n'aurait jamais en fait avec des promesses pour le coup là, dans
ouais.
le cas d'exemple. Donc on a un code beaucoup plus, je ne sais pas si je pourrais dire, enfin, je ne vais pas dire déclaratif, mais beaucoup plus, enfin, les erreurs sont gérées au niveau du type system, j'ai envie de te dire,
exactement.
Déjà, voilà, sont gérées à ce niveau-là, c'est bien ça.
Exactement, okay. Ça permet d'avoir des garanties beaucoup plus fortes sur la description du programme qu'on a, donc d'être plus explicite. Et aussi d'avoir un code qui est beaucoup plus composable, en fait. C'est-à-dire qu'on a des, on va le voir, on a des primitives, on retrouve la nature un petit peu du functional programming par la composabilité, l'art de composer un petit peu les différents blocs qu'on a à notre disposition. Et ce qui est très puissant, c'est qu'en effet, on est capable d'exprimer avec le type level, est-ce que la composition qu'on est en train de faire a du sens d'un point de vue purement exécution d'un programme. Et donc en fait, il y a plein de choses normalement qui ne sont pas permises, et qui ne simplement passeront pas la compilation.
Ouais, c'est ça, en fait, on n'arrive pas... Il est très peu probable, si on a fait un programme et qu'on a très bien décrit au niveau du type system, en fait,
ouais.
qu'on arrive dans des états improbables parce que, en fait, Effect nous empêche en fait, d'arriver à cet état-là, en fait. Donc,
exact.
Et là, j'ai une question, on voit que ça a un impact directement sur la robustesse d'un soft. Bon, ça se voit tout de suite, mais est-ce que ça aurait un impact sur... Est-ce qu'il y a des choses que tu testerais plus ? C'est une question, moi, qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a des comportements qu'on va tester aujourd'hui, à travers des tests unitaires ou autres, qu'on ne testerait plus en utilisant Effect ?
Alors, pas forcément, parce que moi, l'approche que j'ai des tests, c'est d'avoir vraiment la partie garantie que notre programme répond bien en fait aux attentes d'un point de vue comportemental, hein, c'est-à-dire de ce qui produit l'outcome, le résultat auquel on s'attend. Et en fait, ça, Effect, lui, ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que est-ce que ce qu'on fait avec Effect est juste d'un point de vue business? Est-ce que ça répond aux attentes?
Ouais, c'est vrai.
C'est-à-dire, en fait, ça, c'est pas forcément... on peut pas le déterminer statiquement. Par contre, il y a en effet des choses, mais ça rejoint un petit peu les avantages de TypeScript, hein, qui est... de dire en fait il y a plein de tests qu'on va pas forcément avoir besoin de faire, tester que la propriété qui est passée est bien dans le... Mais ça en fait ça va plus être TypeScript, c'est-à-dire que Effect va pousser un petit peu à l'extrême l'utilisation de TypeScript, mais on retrouve un petit peu les mêmes garanties au type level. Par contre, pour tout ce qui est vérifier que notre système fonctionne comme attendu d'un point de vue règles métiers, règles de gestion, etc., on aura toujours besoin de tests.
On n'aura pas la main sur ça, par contre, ça évite peut-être d'avoir du code un peu moins défensif, peut-être.
Exactement.
Effect va te permettre d'avoir du code de meilleure qualité, et donc des bugs probables qui sont liés à du code défensif ou à des designs pas forcément, ou à des dérives dans le design à cause de design défensif dans le code.
Enfin, si vous voulez, je peux vous donner la citation du créateur d'Effect qui est un peu osé, mais qui au final, par expérience, hein, moi ça va faire 2 ans que j'utilise Effect quand même en prod, donc je suis capable aujourd'hui de dire que c'est pratiquement vrai, à 99,9%, c'est que en fait la garantie d'Effect, c'est de dire si ça compile, ça fonctionne. Et c'est vraiment le statement qu'il a donné, c'est si ça compile, ça fonctionne, ça veut pas dire que ça coche toutes les cases par rapport aux règles de gestion qu'on a, mais la description du programme qu'on a nous permet de garantir en quelque sorte que l'expression qu'on a d'un programme est correcte d'un point de vue mathématique informatique, c'est-à-dire qu'il y a toute une range de problématiques qui vont être effacées, et en fait il y a juste des choses qui n'ont pas de sens qu'on ne pourrait pas exprimer en fait avec Effect. Et donc déjà à partir du moment où on se dit ça compile, on a déjà une garantie qu'on a fourni toutes les dépendances qui étaient nécessaires à notre écosystème, on sait qu'on a une gestion d'erreur là où il faut, parce que sinon ça compilerait pas. S'il y a des endroits où on s'attend à ne pas avoir d'erreur, mais qu'en fait on lui donne un effect qui peut produire des erreurs, il va nous dire non, là c'est pas possible. Donc en fait il y a plein d'états incohérents, d'états qu'on ne voudrait pas représenter, hein. J'aime bien, il y a un article qui met l'accent un peu sur ne pas rendre des états impossibles représentables. C'est-à-dire que on a pas envie que notre programme puisse exprimer des choses qui en fait n'ont pas de sens, et c'est ce qu'Effect nous permet de faire entre autres choses.
En fait, ça vient garantir que c'est techniquement correct.
Yes.
Et est-ce que tu dirais que du coup, ça a un impact positif sur, je sais pas, le mutation testing, par exemple ?
Forcément, parce qu'en fait, la capacité qu'on a aujourd'hui avec le mutation testing aussi, c'est de dire, en fait, on va être aussi très strict sur les choses qu'on permet en fait en input ou ce genre de choses, et on a par nature, en fait, par effet de bord, hein, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais on a tout un cas de problèmes qu'on devrait catcher, qu'on se devrait de traquer avec du mutation testing ou d'autres types de tests qu'on ne peut juste pas en fait représenter avec Effect.
Ouais, mais c'est intéressant. On va continuer. Tu m'as donné faim là. Ça y est.
C'est une solution que tu peux adopter de manière incrémentale aujourd'hui dans une application existante, ou c'est plutôt fait pour être pris en compte assez tôt?
Alors moi, c'est une très bonne question, parce qu'en fait c'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber un petit peu dans la propagation d'un virus, hein, comme quand on importe une librairie, que ça se répand partout. En fait, ce qui est cool avec Effect, c'est qu'on a une très bonne interopérabilité avec l'écosystème standard, on va dire, hein, donc les promesses, les callbacks, etc. Et donc on est capable de bénéficier d'Effect à des endroits où on peut en bénéficier de manière très isolée, et en fait en sortie d'une interprétation d'un effect, dire en fait on génère juste une promesse, hein. Par exemple, si une API ou une librairie ne connaît que les promesses ou ne connaît que les callbacks, on est capable de dire en fait c'est pas grave, on s'adapte et en sortie on génère quelque chose qui est compatible. Maintenant, c'est vrai que pour bénéficier, on va dire, de manière plus générale et plus globale, les parties où on en a besoin, ce serait dommage de s'en priver, mais ce qu'il faut garder, c'est qu'on a forcément cette possibilité d'approche incrémentale.
Donc tu peux l'adopter dans un domaine ou dans un module ou dans un service pour commencer, dans quelque chose d'assez isolé, quoi.
Exact. Le seul problème du coup que tu vas retrouver, hein, c'est que quand tu passes d'un effect à une promesse, tu as en quelque sorte une perte d'information, à part si, on va le voir, on a des possibilités de convertir un effect vers une promesse de Heiser, par exemple, qui garde au moins le canal d'erreur, même si ça perd le canal des dépendances. Mais c'est vrai qu'on a toujours, malgré tout, on perd un petit peu de la puissance, mais on a la possibilité de s'intégrer très facilement.
D'accord.
On peut le voir après sans souci. Ouais.
Je vous propose de poursuivre.
Yes.
Allez.
Donc, comme on peut le voir ici, hein, on a l'interpréteur. Et donc, ici, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a envie d'interpréter notre description du programme. Et ici, on voit que ça exécute en fait le side effect qui est décrit. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est de te dire, d'accord, maintenant, on a un effect qui au final, reprend un peu la même signature que la promesse, parce que les deux premiers types génériques, ils sont à never. Et donc, maintenant, si on a envie de te dire, OK, comment on peut, par exemple, éviter la problématique aujourd'hui, hein, qui est globalement de se dire, si on a une. Par exemple, une fonction async ici hein, qui s'appelle sorry I throw errors, par exemple, ou throw exceptions. En fait, la problématique, c'est de se dire ici, bon, on va la faire un peu plus smart, sinon le compiler va nous retourner never. On n'a pas envie de ça parce qu'on a envie de, reproduire un petit cas qui peut se produire. On va dire, par exemple, if, je ne sais pas, on va générer un random number, par exemple, hein, on va faire un mat random, par exemple. On va faire quelque chose d'assez sympa, on va dire si le random il est supérieur par exemple à 0,8 ou 0,9, on va faire un throw par exemple, et sinon on retourne le random par exemple. Et donc si on regarde la signature de la fonction, bon là je mets volontairement async, en fait on s'en fout, ça pourrait être quelque chose de purement synchrone, en fait on voit qu'on a number. Et donc la problématique ici c'est qu'en fait, d'un point de vue purement statique, si on regarde le contrat, on s'attend uniquement à un number, c'est-à-dire que globalement, si j'appelle mon code, hein, encore une fois, je m'attends à avoir quelque chose qui ressemble à un number. La problématique, c'est que le contrat, il n'est pas forcément entièrement vrai, parce qu'on a un canal d'information qui est le canal de succès. Hein. Si ça se passe bien, on est content d'un number, mais on va dire dans 10% des cas, on va avoir une exception qui va nous péter à la tête. Et donc la problématique, c'est qu'en fait, on tombe sur des patterns de code qui sont un petit peu défensifs, parce qu'on va se dire très bien, je sais que potentiellement ça peut se produire, donc qu'est-ce que je fais, hein, tout simplement, bah, je vais faire un try-catch, hein, parce que c'est comme ça qu'on a envie de recover, entre guillemets, de gérer l'exception. Et la problématique qu'on voit ici, hein, tout de suite, c'est que l'exception, elle est typée sous forme d'any ou d'unknown, ou tous les types qui ne nous aident pas forcément avec TypeScript. Et donc ici, la problématique qu'on a, c'est de se dire, très bien, on a potentiellement une exception qui va se produire. Maintenant, comment on redonne du sens à cette exception? On a un peu une perte d'information, en fait, qui est dommage. Parce qu'ici, on voudrait se dire, j'ai envie d'exprimer mon erreur sous forme, on a une classe qui s'appelle, par exemple, error, random error, par exemple, qui est simplement une classe TypeScript. Et si on dit ici, on voudrait modéliser une erreur sous forme de valeur et non pas sous forme d'exception, on pourrait se dire, en fait, on retourne, par exemple, un new random error. Et donc ici, ce qu'on va voir, c'est que forcément, bon là, il infère une new random error. La problématique, c'est que du coup, on a un seul canal d'information. Là, normalement, il devrait quand même peut-être inférer... je vais peut-être me mettre en strict, juste pour être sûr, je ne sais pas ce qui est pris. Compiler options...
Et surtout, quand bien même tu sais que tu as potentiellement la fonction qui va te retourner une exception, tu ne sais pas l'étendue des exceptions qu'elle va te retourner en l'état.
Yes, c'est ça. Par contre, j'essaierai juste de comprendre pourquoi ici, en effet, ce n'est pas une union qui est retournée, mais why not? Ce n'est pas grave. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que du coup, déjà, on le voit, en fait, que ce soit sous forme d'union ou que ce soit sous forme de signature. En fait, on voit qu'il y a un peu un conflit déjà entre le canal d'erreur et entre le canal de succès, si ça, on considère que c'est notre canal d'erreur. Donc ce qu'on aurait envie de faire, c'est de dire, en fait, tout simplement, j'ai d'une part une information qui est l'erreur, et comme tu l'as dit, hein, à très juste titre, ici on a juste une erreur, mais on peut imaginer que, par exemple, on a exactement le même cas quand c'est par exemple supérieur à, je sais pas, ou inférieur à 0,1, par exemple, on pourrait se dire, en fait, on a envie d'avoir un autre type d'erreur, par exemple. Et donc là, en fait, on aurait la problématique aussi de la propagation des différentes erreurs. Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, très bien, j'aimerais quand même avoir cette information des erreurs. Donc, ce qui est cool avec Effect, en fait, c'est qu'il utilise un principe très simple qui est les unions discriminées. Hein, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est simplement on va avoir représenté sous forme d'union un ensemble de structures de données, en fait, qui expriment le fait qu'on peut avoir un cas parmi cette union, normalement, qui se produit. Donc, dans le cas d'une erreur, on aura envie de dire on a, par exemple, quatre membres de l'union, donc potentiellement quatre erreurs qui peuvent se produire. Et donc, le premier besoin par rapport à ça, c'est de se dire, typiquement, comment on exprime le fait qu'il peut se produire une erreur. Et donc, par exemple, avec Effect, hein, on a encore la primitive, un constructeur hein, qui permet de générer, par exemple, une erreur, encore une fois, de manière, par exemple, ici, synchrone. En fait, on se dit, quand on passe par le canal d'erreur, ce qu'on a envie, c'est que l'erreur, en fait, elle soit propagée dans le bon canal et qu'elle remonte au niveau de l'information qui m'intéresse. Et donc ici, par exemple, si on prend aussi un autre cas, on va écrire, par exemple, un effect très simple. Hein, on va dire, par exemple, on pourrait se dire, je vais générer plusieurs types de classes. Tac. Par exemple, random error 1. Ici, on va dire random error 2. Hein, pour info, ce dont on va avoir besoin, c'est quand même d'un tag. Hein, le tag, pour ceux qui ne savent pas, c'est une propriété qui permet à TypeScript de faire la distinction entre plusieurs membres de l'union. Parce qu'en fait, sinon, il va considérer que c'est exactement les mêmes. Hein, vu que TypeScript utilise un typage structurel, il va considérer que les deux classes sont les mêmes. Ce dont on a besoin, c'est de dire, en fait, on va avoir potentiellement un tag ici qui nous permet de faire la distinction. Random error 1, par exemple. Ici, on va prendre la même chose. Et on va dire que c'est un random error 2. Ce qu'on va vouloir faire avec Effect, c'est essayer de reproduire un petit peu un cas dans lequel on se dit qu'une erreur ou l'autre peut se produire, en fait, dans un cas un petit peu précis. Il y a une chose qu'on peut aborder aussi avec Effect qui est intéressante, c'est qu'on peut soit utiliser une syntaxe impérative, donc via l'utilisation des générateurs, soit on peut utiliser ce qu'on appelle une pipeable API, qui ressemble un petit peu à RxJS pour ceux qui connaissent, hein, qui permet de piper un petit peu les opérations et qui ressemble tout de suite un peu plus à du fonctionnel. Mais en fait, ici, on pourrait se dire, soit on utilise, par exemple, pipe et on va combiner nos opérations, soit on utilise une syntaxe un petit peu plus impérative. On peut mettre les deux en perspective pour montrer un petit peu aux auditeurs les possibilités d'écriture de code. Et donc ici, en fait, ce qu'on va voir, c'est que si on dit, en fait, on yield, donc ici, on va yield, par exemple, une erreur. Ici, on va dire, effect, comme on l'a dit, un fail, par exemple, une new random error. En fait, ce qui se passe ici, c'est que globalement, ici, je vais juste, par exemple, tac, commenter ça pour l'instant, sinon ça va nous embêter un petit peu. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, je sais pas pourquoi il me met ici, hop, je pense en fait que la config TypeScript, elle va être un petit peu chiante, parce que je vais devoir lui dire que je supporte les générateurs, etc. Donc en fait, on va devoir lui dire la lib, en fait, c'est ESNext, par exemple. Je pense que... Ouais. Ok. Et donc, en fait, ouais, il a besoin aussi d'enlever l'iteration, qui est, je crois, true, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, sinon, il nous prend un petit peu la tête, mais c'est pas grave. En fait, ça faut juste comprendre que c'est un async await qui est généralisé, en fait, pour les effects. Il faut exactement reprendre la même perspective, hein, avec une async function dans laquelle on a typiquement... Un await, ça va être exactement la même chose avec la syntaxe qui diffère. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, en fait, on a une première random error. Ok, très bien. Et par exemple, si derrière, on dit, on a envie de dire, par exemple, on peut reprendre un peu le même cas, on peut dire, on va générer un random number. Ok, on dit, on reprend un peu le même principe, hein, si le random, il est supérieur à 0,5, je sais pas, on s'en fiche un petit peu. On dit ça, sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on, par exemple, on... return, je sais pas, yield star. Et on dit, on a un effect, par exemple, qui fait 1. Quelque chose de très simple. Si on regarde le type un peu de l'effect, ici, déjà, ce qui est cool, c'est qu'on a une première information, on a nos deux canaux d'information qui nous permettent déjà de donner un côté explicite, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a l'erreur qui peut se produire, et on a le number aussi qui peut être produit dans le cas d'un succès. Et donc si aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas envie trop de complexifier la tâche, et qu'on se dit, on se limite pour l'instant à une seule erreur, ce qu'on a envie de se dire, c'est déjà, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où on a en fait une erreur et un nombre. Si par exemple, on va essayer de... par exemple, de dire, on a envie de gérer cette erreur, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, en fait, c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit, hein, on pourrait se dire ici, on pipe, par exemple, ou alors on peut se dire qu'on a la syntaxe dans l'autre sens, et on pipe ici directement tout l'effect. Tac. En fait, ce qui est intéressant là, c'est de se dire, maintenant, on a plein d'opérateurs qui nous permettent de faire quelque chose qui est du catch, en fait, de l'erreur. Et la différence, c'est que le catch, il va être purement type-safe. C'est-à-dire que quand on va récupérer, par exemple, un catch-all, qui est un peu notre try-catch à la sauce effect, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde ici ce qui se passe dans underscore, il récupère l'erreur de manière typée. Donc ça, déjà, c'est un bon point, parce qu'en fait, on est passé de quelque chose qui était any ou pas typé à quelque chose de random error 1. Et donc l'avantage de ça, c'est de se dire, ok, déjà on est capable de gérer correctement de manière purement type-safe les erreurs. Et puis ce qui est cool après, c'est que si on dit, voilà, en fait dans le cas où on a une, n'importe quel type d'erreur, en fait on retourne par exemple 0. Ce qui est cool, c'est qu'ici en fait notre effect est assez intelligent pour comprendre que l'erreur a été traitée. Et ça, c'est quand même assez puissant.
Ouais, c'est incroyable, ouais. Ouais. C'est ce qui m'a...
Ben, en fait, ouais, non, mais en fait, c'est ce qui est cool, c'est qu'on se rend pas forcément compte, mais aujourd'hui, on a la problématique de dire on a du code défensif, on va se trimballer potentiellement des exceptions, on va avoir un flow de code qui va être plus compliqué parce qu'en fait, on sait pas à quel moment on est censé gérer l'erreur, est-ce qu'elle se propage encore après la gestion de l'erreur, on comprend pas vraiment en fait ce qui se passe. Et ici, ce que ça permet de faire, c'est simplement déjà de dire en fait, bon, on simplifie notre contrôle flow, et derrière, on sait qu'à partir du moment où on l'a géré une fois, on a plus besoin de la regérer. Et ça, qu'est-ce qui nous donne l'information ? C'est le type system, en fait. Ici, on sait que si on a never, c'est potentiellement que toutes les erreurs auxquelles on s'attend dans l'exécution de notre programme sont gérées. Et après, ce qui est cool aussi, hein, c'est dans le cas où on a, par exemple, plusieurs erreurs. Je peux faire on peut continuer, hein, c'est-à-dire qu'on fait... On continue notre combinaison et on dit... par exemple, juste pour montrer à l'utilisateur, hein, ici, si on a plusieurs erreurs, par exemple, tac, on va en remettre une autre. Derrière, en fait, on va de nouveau se retrouver avec... tac, je vais prendre, par exemple, effect fail, hein, encore une fois. Et là, cette fois-ci, ce sera un new random error. Là où je veux interpeller aussi l'auditeur, c'est que, si vous avez remarqué, la génération de l'erreur se fait par simplement la création d'une classe TypeScript. Contrairement au throw qui, elle, génère une exception d'un point de vue runtime qui sera interprétée comme, on passe dans un modèle mental où, en fait... l'erreur est représentée sous forme de valeur. Et la différence, c'est qu'en fait, bah, c'est une valeur comme une autre et on la gère comme on veut. Et ici,
donc ça ne viendra pas stopper l'exécution de ton programme.
C'est ça, c'est simplement une valeur avec laquelle tu vas pouvoir interagir, potentiellement récupérer de l'information dedans qui est purement type safe. On ne se trimballe pas des exceptions qui ne sont pas typées, on sait jamais ce qui se trouve dedans. Il y a des stack traces, il y a plein de choses, il y a plein d'informations utiles au runtime mais qui ne nous intéressent pas forcément en fait, dans notre application code. Il y a autre chose aussi qui est sympa, c'est que, comme on l'a dit, hein, ici, c'est une union. Donc, en fait, c'est une union d'erreurs. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, vu qu'on a une propriété qui est discriminante ici, il est assez intelligent pour comprendre que c'est deux erreurs différentes. Donc, il les propage sous forme d'union. Et donc, dans tous les langages...
Ah, j'ai juste une petite question. C'est le flatmap qui fait cette union-là ou pas ?
Alors, en fait, le flatmap, c'est juste un moyen de chaîner des opérations de manière purement séquentielle. Donc ici, en fait, ça pourrait être autre chose. C'est juste qu'ici, en fait, je modélise le fait de dire on a une opération suivante qui, elle aussi, régénère potentiellement une erreur. Okay. En fait, le flatmap, il faut le considérer, hein, comme quand tu as une chaîne de promesses ici. Hein. Tu fais, par exemple, promesse. Hop. Je mets juste un async, c'est plus simple quand même à gérer. En fait, c'est la même manière que de dire, en fait, tu vas chaîner l'exécution de tes promesses. Hein. C'est exactement le même esprit, c'est de dire en fait, comment je chaîne séquentiellement des opérations. Okay. Et donc, en fait, ici, le flatmap, c'est le dot then en fait, de la promesse, par exemple. Et donc là, en fait, c'est juste le fait de se dire qu'est-ce qu'on fait après. Donc, c'est l'étape d'après. C'est séquentiellement, ça représente sémantiquement la même chose. Donc ici, en fait, ça permet juste de dire on modélise une autre opération qui, ici, fail. Okay. Okay. C'est juste qu'en fait, sur tout notre flow de l'effect, il est capable de comprendre que...
Il est capable d'inférer cette union-là, en fait.
C'est ça. Il l'infère à n'importe quel endroit. C'est ce qui est puissant, c'est qu'en fait, il faut imaginer qu'à l'échelle d'un programme, ici, c'est assez simple, on est sur quelques lignes de code, mais en fait, il est capable d'inférer de manière très profonde à l'échelle d'un programme, c'est-à-dire sous 150 appels de fonctions, d'appels d'effect, il est capable d'aller chercher très profondément des erreurs qui vont être propagées tout en haut de l'arbre. Et donc, ce que ça apporte, c'est qu'en fait, c'est inféré de manière très profonde et de manière très safe.
Et du coup, là, est-ce qu'il infère le fait que ça ne peut pas être en succès ?
Alors là, il infère que, en fait, ici, potentiellement, il ne peut pas le savoir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, ici, en effet, tu veux dire à la dernière ligne du fait qu'on ait le flatmap qui fail. En effet, je crois que tu parlais par rapport à...
Il est passé à never sur...
Oui, il est passé à never pour une simple et bonne raison, c'est qu'en effet, le flatmap qui ici, s'exécute à la toute fin, je l'avais oublié celui-ci, en fait, forcément, le flatmap qui est censé être une opération En fait, qui peut soit fail ou soit succeed. Là, il comprend que dans le meilleur des cas, forcément, il fail encore. Et donc là, on est plus sur du conditionnel. Et en effet, comme on le voit, c'est intéressant. Hein. On passe techniquement sur du never. Mais après, par contre, ce qui est intéressant, c'est que de nouveau, si on réintroduit que j'avais, la chose que j'avais supprimée, qui était encore une fois le recovery, si on passe sur du catch tags, en fait. Le catch tags, ce qui est cool, c'est que ça permet de faire du pattern matching. Comme je le disais, hein, c'est... le point que je voulais aborder, c'est dans les langages purement fonctionnels, hein, dans F-Sharp ou dans Scala ou ce genre de choses, on va retrouver beaucoup du pattern matching, hein, qui permet d'aller introspecter une structure de données telle qu'un ADT, par exemple, qui nous permet de dire, dans le cas où j'ai cette propriété-là, bah, en fait, je fais un comportement bien précis. Et donc, typiquement, ici, ce qu'on voit, c'est que catch tag nous permet de gérer deux cas bien précis. Bah, c'est les deux cas, en fait, de l'union. Et donc, ici, ce qu'on voit, c'est que sur le cas de la random error 1, on a envie de dire, par exemple, bah, je ne sais pas, on retourne une string, par exemple, on va dire endzone ici. Et le deuxième...
Donc là, il va volontairement chercher le underscore tag.
Là, il va volontairement le chercher. En fait, c'est conventionnel. C'est-à-dire
c'est conventionnel. Okay.
C'est conventionnel. Là, comme on le voit en fait, dans le catch tags, souvent, la propriété discriminante, ça va être underscore tag. C'est dans l'écosystème un petit peu fonctionnel, c'est souvent la propriété qui est utilisée, ça pourrait être autre chose. Ici, il s'avère que c'est underscore tag, et donc, par convention, en fait, là, je passe par des classes qui sont moi-même, enfin, que je décris moi-même, mais en fait, en général, ce qu'on fait avec Effect, c'est qu'on définit les classes comme étant, par exemple, random error, qui sont en fait des extends de data tag class, par exemple, qui sont en fait des constructeurs qui nous permettent de définir des structures de données qui sont taguées. Et donc, c'est quand on le voit en fait dans la définition, ici c'est la définition du tag. Donc, en fait, on passe très rarement par nous-mêmes le fait de dire en fait on ajoute une propriété tag, on utilise des constructeurs ici qui nous permettent de le faire pour nous. Et donc, ce qui est intéressant ici en fait, c'est de voir que tant qu'on ne gère pas toutes les erreurs, bah, en fait, il y a toujours l'erreur qui n'est pas traitée qui apparaît. Donc, ce que ça permet de faire, c'est de dire en fait, on est capable de dire on gère un certain type d'erreur, on gère un autre type d'erreur, tout en laissant effet la possibilité d'inférer que un des deux types n'est pas encore géré. Et donc là, si on voit par exemple que on décide de gérer les deux, là on est censé repasser dans un cas où en fait il a compris que de nouveau on a regéré l'erreur, mais par contre on repasse dans un cas où en effet le succès peut être soit une string ou soit un number.
Ok, ça c'est super puissant, parce que si tu as des fonctions assez deep, assez tech, qui remontent des erreurs, bah du coup qui sont purement orientées tech, et qu'après tes fonctions métiers viennent les traiter pour remonter que des erreurs métiers,
ouais.
In fine, quand tu utilises ta fonction métier, c'est inféré que t'as que tes potentiels. C'est intéressant, ça.
C'est hyper intéressant, ouais.
Exactement.
Mais ça change, en fait, ça change drastiquement ta manière même d'approcher la programmation, en fait, la manière dont tu vas développer. Est-ce que toi, ça a eu un gros impact sur ta manière de développer, en fait, au niveau de ton soft? Certes, ça a dû améliorer drastiquement la qualité de ton, on va dire, du côté explicitness du soft que tu développes, mais même sur le style, sur ton design, sur comment tu vas designer tout simplement ton code au jour le jour.
Oui. Sur le modèle mental.
Ouais, c'est ça. Ouais, le modèle mental, il change forcément un petit peu, mais en fait, déjà, comme je le disais au début, ce qui va changer, c'est qu'on a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et qu'en fait, on a envie d'avoir dans notre programme, en termes de gestion, qui sont les erreurs et les dépendances. Donc déjà, en fait, ça nous force à penser et à les matérialiser de manière concrète, hein, des dépendances, des erreurs. C'est vrai que dans très peu de programmes auparavant, on avait cette considération un peu pour les erreurs. On se dit, dès qu'on a un cas qui est un petit peu problématique, on va throw et ensuite on va dire on ne sait pas forcément quoi faire avec cette exception, alors que là en fait on a envie de tout de suite de donner un sens à une erreur, que ce soit une erreur qui soit purement business, hein, une erreur qui appartient à la core logic, au domaine. On peut se dire en fait qu'est-ce qui a du sens en fait en termes de représentation d'erreur, quels sont les cas d'erreur que je peux avoir. En fait tout de suite on réfléchit plus déjà aux erreurs et donc par nature on va considérer des cas qu'on ne considérait pas avant, c'est-à-dire la réflexion par rapport à qu'est-ce que je considérais être. Donc, quelle est la chose que je considère être comme un cas d'erreur business, un cas d'erreur qu'on n'a pas envie d'avoir, un cas d'erreur pour lequel en fait on ne sait pas quoi faire, ce genre de choses. Et donc déjà en fait ouais, ça nous fait entrer dans une dimension qui est en fait gérer tous les canaux d'information qui existent dans un programme, qui sont les dépendances, les erreurs et potentiellement un résultat si notre programme fonctionne correctement.
D'accord, ok. On va arriver bientôt à la fin du podcast. Et c'est vrai que c'est passé hyper vite. Ce que je vous propose, c'est que si tu as encore... on a encore 5 minutes, Antoine, si tu veux qu'on digue sur un sujet typiquement, parce que je ne veux pas t'arrêter comme ça.
Ouais.
Et après, on prend peut-être 10 minutes pour débriefer, si vous êtes d'accord.
Yes. Bah, ce que je peux vous montrer, peut-être, on a montré la partie erreur hein, explicite. J'aimerais juste vous montrer peut-être la partie dépendance et voir aujourd'hui comment ça nous permet aussi d'écrire du code plus testable, plus robuste. Et en fait, ça, on va parler, je vous spoil un petit peu, mais de Dependency Inversion Principle, hein, donc de l'inversion de dépendance, qu'on va retrouver quand même au cœur des principes Kraft en général, hein, qui nous permettent d'avoir un peu plus de contrôle sur notre programme. Et donc, bah, en fait, je vous propose, si ça vous tente, de matérialiser cette fois-ci un effect qui a une dépendance, et on va voir en fait comment on se débrouille pour que notre programme puisse être compilé et puisse être exécuté. Okay, donc, par exemple, si on prend... on va prendre une définition d'un service, d'un repository, hein, vraiment très débile. On va déjà passer par une interface, hein, quelque chose de très simple. Parce qu'en fait, Effect, comme on va le voir, est au service du Dependency Inversion Principle, c'est-à-dire qu'il nous force à passer par des interfaces. Donc déjà, c'est quelque chose de bénéfique, parce que même si on n'en a pas envie, sur nos, avec les péchés qu'on peut avoir de temps en temps, en fait, on est forcé de passer par une abstraction, et donc pas une implémentation concrète. Donc si on prend par exemple une définition d'un user repository, on se dit, je ne sais pas, il y a une méthode qui s'appelle par exemple create, j'en sais rien, quelque chose de très simple. On va la définir comme étant par exemple un effect qui n'a pas de dépendance, qui peut potentiellement, on va dire, on va le faire pour rappeler un petit peu le côté erreur. On va dire par exemple, je ne sais pas... ou alors on peut dire quelque chose de très simple, on peut dire un update, parce que je l'ai en tête, on va dire par exemple, je sais pas, user not found, par exemple. Ici on lui met un tag qui a du sens, par exemple qui est peut-être la redondance, on va dire user not found. Donc la définition de notre interface, c'est simplement un effect qui n'a pas de dépendance, qui peut potentiellement fail pour une raison très simple, qui est le fait qu'on n'a pas trouvé notre utilisateur qu'on veut update. On va être explicite jusqu'au bout, on va dire que c'est potentiellement une erreur. Et derrière, on va dire, bon, bah, ça nous retourne un user qui va être, sans trop de surprise, une classe totalement vide. Et donc ici, en fait, on a notre représentation d'un repository. On va se dire maintenant, qu'est-ce qui permet à Effect de comprendre ce qu'est un service et qu'est-ce qui permet de le distinguer et de l'enregistrer en fait, au runtime. Parce qu'ici, on le rappelle, on n'est que au type level pour l'instant.
On n'a que 3 génériques ici, mais du coup... Comment tu viens définir ton input?
Alors ici en fait l'input on peut passer par des fonctions.
Ah oui, pardon, okay.
En fait un effect peut le cantonner, c'est vrai. Hein,
l'output là finalement que tu définis en définissant l'effect.
En fait tu as raison, je peux aller jusqu'au bout et montrer qu'en fait on peut combiner les fonctions, les effects, il n'y a pas de souci. Souvent l'injection de paramètres se fait via les fonctions. En effet on va voir qu'avec effect ça peut se faire aussi via le contexte. Mais donc en fait il y a une chose qui est importante, c'est de permettre à Effect que nos services soient définis et existent au runtime. Donc pour ça, on passe en fait par une propriété, encore une fois, qui s'appelle tag, qui est en fait un symbole JavaScript, pour ceux qui connaissent. Et donc on va dire, notre user repository va être défini à l'aide d'un contexte qui a du coup, en fait, c'est notre identifiant unique de notre service. C'est le token hein, dans le système d'injection de dépendance qui va nous permettre d'identifier de manière unique un service et son implémentation. Non. Tac, on va dire ici c'est notre user repository par exemple. Je vais y arriver. Et donc en fait ici c'est juste un identifiant unique qui nous permet d'attacher une représentation d'un repository. Et donc après quand on a un effect, on va dire par exemple, on va l'appeler update user par exemple. Il y a une chose très simple qu'on va commencer à faire, c'est de dire en fait j'ai envie d'utiliser ce service là, j'ai envie de faire quelque chose avec. Donc ce qui est cool, c'est qu'en fait on peut dire, par exemple on va faire un flat map encore une fois, et on dit le contexte tag en fait c'est il hérite de la classe de la définition effect, donc en fait on peut l'utiliser en tant que tel. On peut dire par exemple qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce repository. Donc, la première chose, c'est de lui donner la clé, en fait, la clé de notre registre de service, ce qui nous permet d'accéder en fait, à l'implémentation à l'intérieur. Hein. Enfin, pas l'implémentation, pardon, c'est le contrat. Et donc ici, on peut dire, en fait, bon, on va faire, je sais pas, un appel update, par exemple, avec un ID, ici, on s'en fiche. Et donc ici, en fait, ce qui est intéressant, si je donne un petit peu plus de place, c'est qu'en fait, ici, on a la définition d'un effect qui a dans sa dépendance un user repository qui peut produire une user not found error, mais qui, encore une fois, ici, l'effect ne dépend d'aucune implémentation concrète. On n'est que sur de la définition d'interface pour l'instant. Et donc, ce qui est cool, c'est que ça nous permet de dire, OK, notre effect dépend d'un service, mais dépend en fait d'une abstraction, surtout. Et donc, ce qui est cool, c'est que maintenant, si on se dit, bah, très bien, j'ai défini ce que je voulais définir, si on a envie de repartir sur le cas où on dit on a envie de run, par exemple, sous forme de promesse, notre effect, update user, là, il va nous dire une chose très claire, c'est qu'en on ne peut pas assigner le type user repository au type never. Parce qu'en fait, si on reprend un petit peu en pas en arrière, ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas exécuter un effect tant que l'ensemble de ses dépendances ne sont pas satisfaites. Et donc c'est ici en fait où ça se matérialise, c'est-à-dire que effect ne veut pas exécuter un effect pour lequel les dépendances n'ont pas été satisfaites. Et en fait, les dépendances n'ont pas été satisfaites se matérialisent par le fait que le premier type générique n'est pas never. Ici, on voit que c'est un user repository. Et donc ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement, si on veut pouvoir exécuter cet effect, bah c'est très simple. Hein. Ce qu'on doit faire, c'est dire, encore une fois, on va lui donner notre effect. Et ce qu'on va faire, c'est que derrière, bah, on a envie de lui faire notre injection de dépendance. On a envie de lui dire, fournis-lui une implémentation qui correspond au contrat. Et donc c'est là, en fait, on va faire, par exemple, effect provide service, qui prend le tag. En fait, on lui dit, voilà, j'ai envie d'injecter l'implémentation qui correspond au contrat. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, le deuxième argument, bah, c'est l'implémentation. Donc ici, on pourrait considérer qu'on a ce qu'on appelle hein, dans certains écosystèmes, on va avoir ce suffixe un petit peu moche, qui est un plem. Et donc, en fait, ici, on pourrait dire que ça, c'est ce qui respecte notre contrat, par exemple, user repository, ici, tac. Et donc là, on va dire, voilà, on a notre méthode update qui prend ce qu'on veut, et on va dire, ici, on va faire un update user, par exemple. Update user, on va dire, par exemple, il prend l'ID. Tac. On va quand même utiliser des nouvelles features ECMA. Hein. On prend, par exemple, un ID. Mais ici, en fait, ce qui est cool, c'est que techniquement, il va nous dire, forcément, il faut que je retourne un user. Donc ça, c'est normal. On va dire un new user. Tac. Donc ici, bon, il va juste me dire que j'ai besoin de libdom. C'est un petit détail. Hop. Donc on termine sur ça très rapidement. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ici, on a juste besoin de lui dire, je te fournis mon implémentation du user repository. Et donc là, à partir de ce moment-là, ce qui est cool, c'est qu'en fait, le programme compile. Pour une simple et bonne raison, c'est que si on regarde de nouveau ce qui est fourni ici, tac. En fait, on est de nouveau passé à quelque chose de never au niveau des dépendances. Donc là, on compile et on est capable d'avoir la garantie que l'ensemble des dépendances sont satisfaites.
C'est intéressant parce que by design, en fait, l'injection de dépendance, elle est amenée en fait. Effect l'amène by design. En fait.
C'est ça. Okay. C'est le dependency injection principle est forcé. Et donc, forcément, en fait, ce que ça permet, hein, là, on n'aura pas forcément le temps de le faire, mais vous l'imaginez bien, le fait qu'on ait besoin d'injecter un service en particulier dans le testing, on est capable d'arriver de dire, on lui fournit une implémentation, une memory, par exemple, on injecte ce qu'on veut.
C'est hyper intéressant. Ouais.
Aujourd'hui, tu dirais que dans un cas concret de production, parce que comme le TDD et de manière générale, toutes les pratiques ou les librairies qui viennent ajouter un certain nombre de choses, forcément, ça ajoute du travail. Ça ajoute du travail de définition, de réflexion, de conception. Est-ce que tu dirais qu'au quotidien, dans ton cas, ça te fait gagner du temps? Ou est-ce que malgré tout, ça vient impacter négativement ta vélocité?
Alors, forcément, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps. Si on met de côté un petit peu la learning curve, hein, qui va être présente aussi, par exemple, sur du TDD ou sur d'autres types de techno, on part du principe où quand on commence à maîtriser un petit peu, on va être sur une productivité qui va être accrue pour la simple et bonne raison qu'en fait, la feedback loop, encore une fois, elle va être accrue. En fait, on va avoir beaucoup plus de facilité à exprimer plein de choses. Et c'est surtout qu'en fait, la facilité d'écrire des programmes et d'écrire des choses extrêmement complexes, là, on l'a pas forcément vu, mais il y a des patterns de concurrence, il y a des patterns de résilience, il y a des patterns de resource management, de gestion des ressources qui sont built-in et qui nous permettent en fait d'aller droit au but et qui nous permettent de gagner énormément en productivité, en vélocité. Et donc forcément, il y a la learning curve hein, qui est pareil pour toutes les technos, malheureusement, ça, il faut y passer. Mais à partir du moment où on commence à être productif avec Effect, le code qu'on écrit est composable et maintenable. Et c'est même l'argument que je mettrais le plus en avant aujourd'hui, c'est la maintenabilité. Pour la simple et bonne raison que les blocs de code qui vont être utilisés sont par nature composables dans la mesure où en fait, on a le dependency injection principle qui est dedans, on a la possibilité de combiner des opérations juste avec un seul data type qui est effect en toutes circonstances, et donc en fait on est capable de faire face à n'importe quel type de situation, Et donc, en fait, à partir du moment où, en effet, on commence à être productif avec, nos programmes, l'écriture des programmes se simplifie, parce que Effect prend énormément en charge de complexité, se simplifie et est beaucoup plus explicite. Et au final, la complexité est réduite. Même si au début, on pourrait se dire c'est beaucoup plus, plus complexe à écrire.
Je pense qu'on arrive aussi à un autre niveau de documentation, quoi. C'est-à-dire, déjà, TypeScript, ça documente quand même pas mal. Enfin, les types viennent documenter quand même le code. Là, on arrive à un autre niveau d'explicitness, comme je disais tout à l'heure, où c'est vraiment très, très clair. Et rentrer dans du code, et quand tu bosses sur ce type... Après, bon, il faut connaître la librairie, bien évidemment.
Ouais, c'est
mais
comme
c'est
tout.
Vrai que, ouais, c'est comme tout. Mais c'est vrai que c'est hyper agréable. Là, quand on regarde le code, c'est hyper agréable. Et c'est très compréhensible. Enfin, pour moi, je...
Ouais, carrément.
Ouais.
Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à un auditeur qui voudrait le mettre en place sur son projet, par où commencer et concrètement, sans forcément...
Petit rappel, il nous reste 3-4 minutes.
Yes, ok, non mais je vais être rapide. De toute façon, il y a un point essentiel sur lequel encore je veux insister, c'est avant de commencer à regarder Effect, à s'intéresser à Effect, c'est intéressez-vous d'abord au problème qu'Effect essaye de résoudre. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que tant que vous ne serez pas conscient des problèmes qui sont abordé avec Effect, vous ne saurez pas en bénéficier et vous ne saurez pas justement en tirer un bénéfice important. Parce qu'en fait, tant que vous êtes un petit peu encore dans l'incompétence par rapport à ces sujets-là, mais c'est totalement fine, hein, c'est pas du tout péjoratif, on prendra pas la mesure en fait de la puissance de la chose. Et donc la première chose, c'est simplement de prendre un peu de temps sur la documentation. C'est écrit. J'ai écrit aussi une introduction que vous pouvez retrouver sur GitHub. Hein. Qui s'appelle Effect Introduction, qui reprend un petit peu en côte à côte le code JavaScript et TypeScript qui est écrit sans Effect et le code JavaScript qui est écrit avec Effect. Et on peut voir en fait que Effect se penche juste sur la résolution de problèmes qu'on a et qu'on est censé normalement avoir sur notre base quotidienne. À partir du moment où on réalise ça, il n'y a plus qu'à prendre la documentation qui a été fraîchement élaborée. Et ensuite, quand on est sûr qu'on a bien saisi les problématiques, les enjeux, on passe à l'apprentissage, à la montée en compétences.
Ok. Dernière question de mon côté. Est-ce que c'est le genre de librairie qui, pour le coup, est plutôt orientée pour le bac? Ou est-ce que demain, c'est une librairie qui trouve du sens sur du front, je ne sais pas, dans React, par exemple, pour venir déclarer tes... Alors, en dehors des composants, ça fait sens, effectivement. Mais est-ce qu'au sein de tes composants, tu peux trouver du sens à une lib comme celle-ci?
Alors, c'est encore une fois une bonne question et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, je l'ai eu encore au meet-up, c'était mardi, hein, tout simplement. En fait, au niveau du paradigme, le créateur d'Effect, lui, se disait, lui, plus back-end par définition, et avait pensé à Effect pour résoudre des problématiques back-end. Et en fait, il s'est aperçu qu'avec la traction que ça a eu, qu'au final, l'écosystème penchait beaucoup plus sur le front en termes d'adoption, pour la simple et bonne raison qu'en fait, encore une fois, les problèmes qui sont abordés par Effect sont universels, que ce soit la plateforme front ou la plateforme back, que ce soit le browser ou que ce soit un runtime server-side, on retrouve un peu les mêmes problématiques de résilience, d'explicitation, de concurrence, ce genre de choses. Et en fait, j'ai envie de dire, aujourd'hui, il n'y a pas de limite. La seule limite qu'on a, c'est un besoin en effet qui se matérialise par le simple fait d'avoir un minimum de complexité. Hein. Il ne s'agit pas d'introduire Effect, là on a juste besoin, je ne sais pas, de faire des choses très simples. L'idée c'est de se dire en fait, si au bout d'un moment je commence à vouloir rendre mon code explicite, puissant, déclaratif, je peux le faire à un endroit très isolé, sur le front, par exemple un module qui le justifie. Et même faire des choses très simples, hein, comme simplement, là on ne l'a pas vu ce soir, mais il y a l'équivalent Zod qui existe avec Effect et qui permet simplement de faire de la sérialisation, désérialisation de données, de parsing, etc. Et de s'assurer qu'en fait on est déjà type safe sur la récupération de données et derrière sur aussi peut-être la gestion de la concurrence. Okay. Voilà.
Okay. Bah, Antoine, merci beaucoup pour la presta que tu as fait aujourd'hui et merci James aussi pour toutes les questions hyper intéressantes que tu as pu poser. Moi j'ai un petit gift pour toi quand même parce que tu as quand même assuré. Et j'ai ouï dire que t'aimais le basket. Alors, je sais pas si c'est vrai.
C'est vrai, Voilà. J'ai délaissé ma carrière de basketteur pour faire du software engineering.
J'ai une bonne source alors, tiens.
Ok.
Alors, c'est un petit mode basket, c'est simple. Hein.
Ah, c'est super cool.
Pour, voilà.
T'as fait magnifique, avec le petit logo Endzone qui est très propre au passage.
T'as fait le job.
Ah, super.
Et puis, j'espère qu'on te reverra très bientôt dans l'émission parce que...
Yes. Que je montre à la bonne caméra peut-être. Tac, Antoine Coulon.
Qu'on se reverra à la maison pour une autre partie ou même pour un autre sujet, pourquoi pas. Mais
avec
c'était
plaisir.
Très dense et t'as assuré. Vraiment, j'ai trouvé que t'as. Moi personnellement, j'ai trouvé que vraiment t'as assuré.
Carrément. C'est où est-ce qu'on te retrouve ?
On me retrouve sur GitHub, sur LinkedIn, sur Twitter. Je publie un petit peu de contenu, je vais essayer d'être un peu plus assidu, toujours sur le partage de connaissances, partage de ressources. J'écris aussi un petit peu de blog post sur Dev2, le temps que je set up un truc de personnel. Mais voilà, sur les réseaux classiques, on va dire Antoine Coulon partout. Avec la même photo, j'essaie d'être...
reconnaissable.
D'être reconnaissable.
Voilà. Super.
Ok. Bah, merci à vous.
Merci beaucoup, messieurs.
Merci.